Bonjour tout le monde. Ça va pour vous? Vous avez passé un bel été? Vous avez passé ou vous êtes en train de passer un bel été?
Jusqu'à date.
Jusqu'à date, OK. Mais il y a des bonnes nouvelles pour vous autres, ça va se continuer jusqu'en septembre. Mais paraîtrait-il qu'en décembre, on va avoir une tempête. Mais on n'est pas rendu là. Le thème de ce message ce matin, comme vous le voyez, c'est la volonté directive et permissive de Dieu. Vous savez, de tous les sujets qui existent, connaître la volonté de Dieu, c'est un sujet qui intéresse tous les chrétiens. Il y a toutes sortes de matériel disponible sur la volonté de Dieu. Moi, j'ai peut-être lu 10 à 15 livres, j'ai écouté des messages, en tout cas depuis des années. J'ai accumulé, j'ai regardé toutes sortes de choses. Mais on peut voir dans le psaume 25, « Éternel, fais-moi connaître. » Pourquoi « fais-moi connaître » ? Parce qu'on a besoin de connaître. De connaître ses voies. Le mot « voie » dans l'original veut dire « chemin »,« direction ». Seigneur, fais-moi connaître le chemin dans lequel je dois marcher, la direction que je dois prendre. Enseigne-moi tes sentiers. Le sentier, c'est une manière de vivre. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Le désir plus profond de Dieu est que chacun de ses enfants discerne sa volonté, y obéissent et marchent de la bonne manière. Amen. On a à apprendre à marcher de la bonne manière. Parce que de par notre nature, on est porté à marcher tout croche. Je vous ai déjà posé la question, pourquoi que les rivières ne sont pas en ligne droite? Que les rivières sont tortueuses, vous savez pourquoi? Parce qu'ils cherchent le chemin le plus facile. Et c'est pour ça que nous aussi, on marche tout croche, parce qu'on cherche le chemin le plus facile. C'est souvent ça. On va prier. Seigneur, oui, on veut se placer devant toi. On veut connaître, Seigneur, ton plan pour nous, ta direction, dans quel chemin on doit marcher. Oui, Seigneur, on veut que tu nous enseignes, que tu nous conduises, que tu nous instruises. On t'en prie, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Un patient, un jour, qui est allé voir son médecin, il dit, lorsque j'ai dit à mon médecin, chaque fois que je me regarde dans le miroir, il dit, ça me rend malade. Le médecin, il répond, il dit, au moins, vous avez une bonne vue. Il faut avoir une bonne vue spirituelle pour discerner la volonté de Dieu. Mais MacArthur a dit qu'on ne découvre pas la volonté de Dieu, on la discerne. Il y en a quelques qui disent des fois, « Je cherche la volonté de Dieu. » MacArthur dit, « L'avez-vous perdu? » On ne cherche pas la volonté de Dieu, on la discerne. La même chose que vous en allez sur la route, vous voyez un panneau indicateur à 5 km. Vous voyez le panneau, vous ne savez pas ce qui est écrit dessus. Mais en marchant, vous discernez ce qui est écrit dessus. Dans notre vie chrétienne, c'est en marchant qu'on apprend qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous autres. Il nous révèle à chaque pas quand on marche dans ses sentiers. Il y a une chose qu'il est normal et important de savoir, de connaître la volonté de Dieu. Vous aurez toujours de la difficulté à discerner la volonté de Dieu si vous ne vivez pas une vie de sanctification, une vie soumise au Saint-Esprit. Ça veut dire avoir une bonne relation avec Dieu. Si vous avez une bonne relation avec Dieu, vous allez avoir plus de facilité à discerner la volonté de Dieu. Mais lorsque vous avez une décision à prendre, il y a au moins trois étapes importantes. Là, je suis en train de vous faire un résumé de quatre messages là, en 10 minutes. en ce qui concerne la volonté de Dieu. Trois étapes importantes. La parole. On dit que 98% de sa volonté nous est révélée dans sa parole. Avez-vous un plan de lecture? Est-ce que vous avez lu aujourd'hui? C'est important puisque 98% de sa volonté se trouve dans sa parole. Comment connaître la volonté de Dieu si vous ne lisez pas la parole? C'est primordial, c'est le point numéro un. Deuxièmement, la conviction intérieure. Hein, le Saint-Esprit qui nous parle, cette petite voix qu'on entend à l'intérieur de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Mais notre esprit se rebiffe et dit « Wow, ça ne marche pas tout de même. Tout le monde, on ne s'en va pas tous dans la même direction. Hein? » Et là, on va commencer à raisonner. On va dire « c'est pas si grave que ça. L'autre le fait. » Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Troisième point, c'est les circonstances. Elles sont souvent des indications qui nous aident à discerner la volonté de Dieu. Mais nous savons qu'aucune circonstance n'est le fruit du hasard. Souvent, on a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, et ça nous indique parfois la volonté de Dieu, mais on se pose des questions à savoir est-ce qu'on doit se baser là-dessus. Ça vient au troisième point. Et souvent, on compare ces portes ouvertes, ces portes fermées à la toison de Gédéon. Vous avez entendu ça souvent. J'ai mis le toison dehors, je l'ai rassayé le lendemain de l'autre côté. Il faut faire attention avec ça, l'utilisation de cette méthode de recherche de la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours recommandable. Je vais vous donner une illustration sur les circonstances. Vous connaissez l'histoire de Jonas, vous avez tous lu l'histoire de Jonas. Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive. Il est allé à Jaffa. Il a pris l'autre côté, complètement. Je vais juste vous brosser une petite histoire fictive. Imaginez le Seigneur qui dit, « Hey, Jonas, qu'est-ce que tu fais là? » Il dit, « Je ne t'avais pas demandé d'aller à Ninive. Qu'est-ce que tu fais ici? » « Oh, mais regarde, Seigneur, toutes les circonstances étaient là. Il y avait un navire sur le point de partir pour Tarsis. Il y avait encore de la place à bord. Le capitaine a même accepté de me vendre un billet. On m'a même souhaité la bienvenue. On avait même un lit à m'offrir pour me coucher. Tout était là, les circonstances. Il y a cependant un problème. Dieu avait demandé d'aller à Ninive, pas à Jaffa. Mais Jonas avait une leçon à apprendre. Et cette leçon, il l'a apprise en descendant toujours plus bas. Il est descendu à Jaffa, il est descendu dans le bateau, il est descendu dans le fond du bateau, il est descendu dans le fond de la mer, puis il est descendu jusqu'à la racine des arbres. Chapitre 2, verset 7. Il était pas mal au plus bas. Hein? Mais il s'en est sorti par l'intervention de Dieu. On n'aimerait peut-être pas se faire sortir de nos difficultés de cette façon-là, hein, par un gros cachalot, mais Dieu a mis sa main, puis il l'a sorti de là, puis il l'a restauré, puis il est allé à Ninive. Puis, il y a eu des conversions. Si la Bible est claire sur un sujet, une décision à prendre, il faut s'efforcer d'y obéir, peu importe les circonstances. La parole, la conviction intérieure. Moi, quand je n'ai pas la conviction intérieure, puis quand j'avance quand même, c'est certain qu'il y a quelque chose qui va se passer qui ne sera pas correct. Je vais apprendre une leçon, puis je vais faire des erreurs. Le Seigneur permet parfois que nous fassions des erreurs afin de nous enseigner des leçons. Des leçons qu'on n'aurait pas apprises autrement. Et ces leçons-là qu'on apprend, lorsqu'on n'est pas prêt à les apprendre, ça devient encore plus difficile. Et lorsqu'on est prêt à les apprendre, automatiquement, on passe par des difficultés. On n'a pas besoin d'élaborer. On passe tous par des difficultés parce qu'on a tous de quoi apprendre. Et le Seigneur permet qu'il nous arrive certaines situations afin qu'on apprenne à discerner sa volonté. Alors, on a trois étapes. La parole, la conviction intérieure et les circonstances. On pourrait aussi ajouter le conseil de frères plus âgés ou durant une lecture, durant un message. Si on peut nous parler aussi durant ces choses-là. Mais il y a des choses de base qu'on sait. Il y a des choses de base que nous savons. Nous savons que Dieu veut nous demander de prier pour tous ceux qui sont élevés, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut. C'est sa volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si on cherche la volonté de Dieu, Dieu veut que tout, etc. Un Thessaloniciens 4:3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On n'a pas à chercher longtemps. Pour ça, 98% est dans la parole. On sait, Dieu veut notre sanctification. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on rende grâce en toutes choses. N'importe quoi. Dis merci Seigneur. Quand il pleut, le monde est critique. Il faut dire merci Seigneur parce qu'il pleut. Quand c'est l'hiver et qu'on rentre dans le banc de neige, merci Seigneur, je suis dans le banc de neige. On va s'en sortir tantôt. Hein? Vous savez, une fois, c'était deux gars qui travaillaient ensemble. L'un était chrétien, puis l'autre, il était pas contre l'Évangile, mais il n'avait pas accepté le Seigneur. Il ne savait pas. En tout cas, ils se préparent les deux gars pour manger, puis quand ça vient le temps de prendre le repas, le chrétien baisse sa tête, puis commence à prier. Il n'a pas prié longtemps. Et l'autre, il le regarde, puis il dit, ça va pas. « Oh oui, il dit, t'es-tu malade? »« Non, non. » »« Il dit, t'aimes pas ton repas? »« Non, non. » »« Non, je viens de remercier le Seigneur pour la nourriture qu'il me donne. » »« Non, il dit, moi, je ne fais pas ça. » »« Il dit, moi, je travaille. » »« Il dit, ce que je mange, j'ai travaillé pour gagner ça, puis je le mange, ça, moi, je n'ai pas d'affaire à remercier personne pour ça. »« Ah, il dit, toi, t'es comme mon chien. » »« Il dit, quand je lui donne son plat, il mange tout de suite dedans. » Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Il y a tout un message dans ce verset-là. Hein? Quand on se conforme au siècle présent, qu'on n'est pas transformé dans nos pensées, c'est difficile à discerner la volonté de Dieu. Mais lorsque Dieu vous parle et que vous comprenez très bien sa volonté, attention de ne pas tenter Dieu au point de vous embarquer sous sa volonté permissive. Le texte que j'ai utilisé, c'est Nombre chapitre 22, c'est un exemple classique de la volonté permissive. Ceux qui veulent tourner, c'est dans Nombre 22, les versets vont tous apparaître à l'écran. Alors, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et ici, vous avez Moab. Moab est ici. Édom est ici. Alors, les enfants d'Israël arrivaient de plus bas, hein, de l'Égypte, puis ils montaient, puis ont commencé à battre les Amoréens, puis ont commencé à battre d'autres peuples. Puis ils s'en venaient, puis quand ils sont arrivés dans ce bout ici, là, le roi de Moab, lui, a commencé à prendre panique. Balak avait vu comment les Israélites avaient détruit les Amoréens. Alors Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alors, les Israélites avaient remporté des victoires et les autres peuples en avaient entendu parler. Alors, Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. »
comme le bœuf broute la verdure des champs. Alors Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Vous savez, les Moabites, c'était des descendants de Lot, alors que les Madianites vivaient au sud et étaient des descendants d'Abraham et Keturah. Alors, j'avais un certain lien de parenté, mais ça, ils n'étaient pas en chicane, mais ils ne travaillaient pas vraiment ensemble. Mais là, ces deux peuples conclurent une alliance afin de pouvoir combattre le peuple d'Israël. Et ensemble, ils ont fait appel à Balaam, qui pour eux pourrait les aider à affaiblir le peuple d'Israël pour qu'ils puissent gagner. Au verset 5, nous lisons, « Ils envoyèrent des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve. » Quand on parle du fleuve, on parle du fleuve l'Euphrate. Alors, c'est quand même à 600 kilomètres de là. Sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis est maudit, parce qu'il est plus puissant que moi. » Exemple classique. Hein? Ici, on a Balaam, un prophète énigmatique, mystérieux. Il est bien connu du roi Balak, parce qu'il vient de la même région. Un roi païen. Et Balak connaît un peu Balaam. Il sait qu'il peut invoquer n'importe quel dieu, puis ça arrive toujours, son affaire. C'était populaire dans la région, parce que quand on parle du fleuve l'Euphrate, c'est de là venait Abraham, puis on sait qu'Abraham était, à l'époque, il y avait beaucoup de faux dieux dans le coin. Alors, c'était populaire, puis même au début du Nouveau Testament, vous vous souvenez, dans Acte 8, Simon, le magicien, qui faisait beaucoup d'argent, mais quand il a voulu payer pour avoir le Saint-Esprit, Pierre dit, « Oups, t'es dans l'erreur. » Et vous, c'était typique dans ces temps-là. Alors, le but de Balak, c'est de prendre ce devin, Balaam, et le faire parler contre le peuple de l'Éternel. « Viens, maudis-moi ce peuple. » Espérant que Balaam, par sa puissance surnaturelle, permettra de battre le peuple et chasser le peuple du pays. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Alors, il rapporte les paroles qu'il avait mentionnées au verset 6. Verset 8, « Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. C'est intéressant parce qu'il cite l'Éternel. Il connaît tous les dieux, même l'Éternel. Verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, marquez bien un point, c'est Dieu qui fait le premier pas. Dans nos vies, c'est toujours ça. Dieu fait toujours le premier pas. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Comme s'il ne savait pas. Hein? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être aussi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. C'est assez impressionnant que le Seigneur veut bénir ce peuple-là, un peuple qui lui a donné de la misère depuis qu'il est sorti d'Égypte. Ça fait 40 ans qu'il a de la misère avec. C'est un peuple béni, parce que c'est celui que j'ai choisi pour me représenter sur la terre. Alors, la volonté directive de Dieu, c'est tu n'iras pas. C'est ça qu'on vient de lire. Hein? Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple parce qu'il est béni. La volonté directive de Dieu, c'est « tu n'iras pas ». Du verset 13 au verset 16, on assiste à une négociation de pots de vin et toutes sortes de verres. Puis Balaam fait semblant d'obéir, mais il se laisse une porte ouverte pour pouvoir désobéir. On est toujours dans Nombre 22. On lit au verset 13 que Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse. » Ce n'est pas de ma faute. C'est l'Éternel qui refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dit, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Alors Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'empêche donc pas de servir, de venir vers moi. » C'est intéressant, regardez dans l'original, dans l'hébreu, que rien ne t'empêche. En hébreu, ça veut dire, ne te laisse pas empêcher, surmonte cet obstacle. Et tout un obstacle? Tout un obstacle, défier la volonté de Dieu? Qu'on ne t'empêche pas de venir vers moi, surmonte cet obstacle. Et là il va y mettre le paquet, puis là, Balaam, là, il va voir les... Il va frémir. Je te comblerai d'honneur, et tout ce que tu me diras, je le ferai. Mais viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Va te payer, va t'en donner, tant que tu en veux. Et Balaam répondit, et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, mettez-en, qu'il emplisse la maison, ben, peut-être que là, on verra. Il négocie avec, hein? Ça ne paraît pas. Quand même qu'il me donnerait sa maison d'argent et d'or, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, pour faire chose petite ou grande. » Et vous, c'est marqué « quand l'Éternel ». Il y a d'autres versions qui disent « même si tu me demanderais même si tu me donnerais ta maison pleine d'argent, même si, je ne peux pas, l'Éternel ne veut pas. Je suis coincé avec l'Éternel. Mais, attends un petit peu. Il y a peut-être de quoi faire. On va faire un autre essai. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Il me semble qu'il y avait déjà dit. Mais il est en train de négocier avec Balak. Peut-être que je peux négocier avec Dieu aussi. Verset 20. Dieu vint. C'est encore Dieu qui prend les devants. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Tu feras ce que je te dirai. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? C'est parce qu'il s'agit de son peuple. Balaam doit comprendre combien l'affaire est importante quand il s'agit des intérêts de Dieu. Et moi, en méditant là-dessus, je dis, « Hey, c'est sécurisant pour nous autres, ça, qui sommes le peuple de Dieu. » On n'a pas à s'inquiéter. Peu importe ce que Balaam veut faire puis qu'il va essayer de faire, c'est Dieu qui contrôle. Dieu fait les premiers pas, il va continuer. Alors, la volonté permissive de Dieu, c'est obtenir un oui alors que Dieu dit non. Dieu avait dit non, tu n'iras pas, mais lui, il veut obtenir un oui. C'est un petit peu comme... petit garçon qui va aller patiner, on arrive là. On est dans le mois de janvier, là. Pas là, dans le mois de janvier. Là. Imaginez-vous, on s'en va 6 mois plus loin. La glace, elle commence à prendre sur l'étang. La glace n'est pas épaisse, c'est à peu près un pied d'eau. Le petit gars, il dit à peu près, il voudrait aller patiner. Mais non, la glace n'est pas assez épaisse, ça va casser, puis tu vas caler. Je veux aller patiner. La volonté directive du Père, c'est non, tu n'iras pas patiner. Mais le fils négocie, puis à un moment donné, Dieu, le père permet qu'il aille patiner. Le petit gars, il va patiner, la se casse, puis il tombe dans l'eau. Il se mouille les deux pieds. Et c'est ça, la volonté permissive. C'est qu'après ça, bien, il est tout tremble. Hein? Il faut qu'il revienne. Voyez-vous, Dieu a dit, « Lève-toi, pars avec eux, seulement ce que je te dirai, tu le feras. » Je vais continuer. Même sous la volonté permissive, Dieu contrôle quand même. Dieu va contrôler même sur la volonté permissive. Même quand on s'égare, qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu nous contrôle pareil. Il respecte notre erreur, mais en cas peut-être qu'on aille trop loin, il va nous protéger. Vous savez que la liberté humaine, c'est un privilège tellement précieux que Dieu la respecte jusque dans ses déviations. Même si on dévie de notre trajectoire, Dieu est là pareil. C'est comme si Dieu dirait, « OK, tu t'en vas là, t'es dans un... tu marches une pente glissante, mais attention, là où tu vas t'engager, prends garde à la manière dont tu vas parler, je vais être là, puis je vais surveiller. » Pourquoi Dieu utilise-t-il Balaam? Des questions qu'on peut se poser. Hein? Pourquoi Dieu utilise-t-il Balaam, un prophète païen, pour consulter n'importe quel... qui consulte n'importe quel dieu? C'est parce que Dieu veut parler aux Moabites qui sont là. Et puisque Balaam avait déjà demandé les services de cet homme-là, bien, il va s'en servir. Dieu peut se servir de n'importe qui. Il, avant la sortie d'Égypte, il s'est servi de Pharaon. Il n'avait pas pire que lui. Dieu s'est servi de Pharaon pour accomplir sa volonté, pour sortir ses enfants du pays d'Égypte. Alors là, ici, on a la volonté directive de Dieu, tu n'iras pas. La volonté permissive de Dieu, vas-y, mais je t'ai dit non. C'est d'obtenir un oui quand Dieu dit non. Et là, c'est là qu'on retrouve la voix de Balaam. La voix de Balaam, c'est un peu le texte de Pierre et de Jude qui utilise en ce qui concerne les faux docteurs, les faux enseignants. Il leur dit, 2 Pierre 2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, c'en était un, Balaam, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et quand on s'en va au verset 15, « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, la voie de la désobéissance, qui aimait le salaire de l'iniquité. » Verset 16, « Mais il fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisait entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. » Se faire parler par un âne, c'est pas, c'est rendu loin. Hein? Dieu peut n'importe quoi. Alors Balaam avait été engagé par un roi idolâtre pour maudire le peuple d'Israël. Il a obéi à Dieu pour un temps, mais il était... Sa mauvaise motivation l'a emporté. Or, la voie de Balaam, c'est obtenir un oui alors que Dieu dit non. Et comment, pour nous autres, là, la voie de Balaam peut se manifester dans nos vies? Lorsque j'ai une décision importante à prendre, là, choix de partenaire, hein, les jeunes, ça arrive quelquefois qu'ils n'attendent pas la volonté de Dieu, puis ils tombent sur la permissive, puis après ça, ils payent la dette. Ça fonctionne des fois, ça fonctionne pas toujours. Au sujet d'un mariage, au sujet d'un travail, au sujet d'un voyage, au sujet d'un déménagement, participer à des choses mondaines. Moi, je suis surpris de voir des chrétiens qui vont, Ils vont écouter ils vont dans des activités, ça nourrit pas l'âme du tout, ça détruit notre foi. Puis, ils vont aller là. Mais, si Dieu dit non, n'essayez pas d'avoir un oui. Si Dieu n'est pas d'accord avec ça, vous pouvez y aller si vous voulez, mais vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est la voix de Balaam. On a l'égarement de Balaam dans Jude, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voix de Caïn, ils se sont jetés dans le salaire, dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Quand on dit malheur à eux, c'est malheur à eux les apostats. C'est de ça que Jude parle. Et on a trois types de personnes ici. On a Caïn. Caïn qui a tué son frère par excès de jalousie. La voie de la désobéissance, exactement comme ses parents. La voie de la désobéissance. La voie qui n'a ni foi, ni amour fraternel. On a le Balaam, l'égarement de Balaam, qui a prophétisé par soif de posséder. On appelle ça le raisonnement humain. Et on va voir. Voyez-vous, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment Dieu dit non. En négociant, Dieu dit, tu vas y aller, mais je vais surveiller comment ça va fonctionner. Mais comment Balaam va s'y prendre, puisque Dieu dit non, comment Balaam va s'y prendre pour amener le peuple de Dieu à entrer dans une désobéissance pour les affaiblir, pour que les autres peuples puissent réussir à ne pas les battre, parce que l'Éternel va être encore là, mais ils vont avoir de la difficulté. Comment il va réussir à affaiblir le peuple d'Israël? Je me pose la question, puisque Dieu dit non. On a un autre groupe dans ce verset-là qui était Corée. Corée qui s'est rebellé contre les responsables et que Dieu avait choisi. Alors, si c'est l'insoumission à l'autorité. Alors, ils se sont tous égarés loin de la vérité. Il faut faire attention lorsque Dieu nous parle, il faut obéir. Il faut arrêter nos petits raisonnements. On est porté à raisonner, nous autres. Hein? C'est dans notre nature, on raisonne, puis on négocie. Il faut être soumis à Dieu et aux autorités que Dieu a établies. Moi, quelqu'un qui m'avait dit, le gouvernement, parce que le monsieur, il travaillait au noir souvent, puis je parle de ça, « Ah, il dit, regarde, le gouvernement, c'est comme un chien qui se tourne, qui chasse sa queue, tu sais, il tourne, puis il vient à bout d'arrêter. » Ouais, mais j'ai dit, moi, je me réfère à Romains 13, qui dit d'être soumis au gouvernement. Puis le gouvernement actuel, ce n'est pas le gouvernement romain, c'est celui-là. Fait que, faut être soumis là. Arrêtez de raisonner au sujet de notre travail. Cherchez toujours à avoir un meilleur travail ou un meilleur salaire. C'est le Seigneur capable de nous donner ce qu'il veut, ce qu'on a de besoin, selon nos capacités. Il y a des questions qu'on n'aura pas les réponses, mais... Il faut apprendre à y faire confiance. Et dans l'Église aussi, la responsabilité d'obéir à nos conducteurs, c'est la volonté de Dieu. Mais en ce qui concerne Balaam, sous la volonté permissive, il s'égare de plus en plus. Il sait que Dieu veut bénir ce peuple, mais dans un certain sens, il y a toujours la pensée que Dieu pourrait changer d'idée. Tu sais, il négocie avec Dieu. Au lieu de se repentir, il s'égare. Et dans son égarement, ça devient une doctrine. La doctrine de Balaam. C'est rendu qu'on l'enseigne. Et on retrouve ce passage dans Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité, à l'inconduite. Hein? Alors, la doctrine de Balaam, c'est inciter le peuple à s'unir en mariage avec les Moabites. Le seul moyen qu'il pourrait, comme je disais tantôt, le seul moyen qu'il va pouvoir arriver, Balaam va pouvoir arriver à affaiblir le peuple d'Israël, c'est en les mélangeant aux autres peuples. Parce que là, le peuple d'Israël, l'Israël va être influencé par les autres peuples, ils vont commencer à adorer les idoles, ils vont commencer à faire des choses qui ne sont pas plaisantes à Dieu, puis le peuple va faiblir spirituellement. Mépriser l'ordre de Dieu en enseignant son peuple à s'unir avec les autres nations, avec le monde. Ça nous rejoint, ça, nous autres. Il faut faire attention à ça. En résumé, on peut voir que la voie de Balaam, c'est d'obtenir un oui alors que Dieu dit non. L'égarement de Balaam, c'est étant sous sa volonté permissive, il s'égare dans la désobéissance. Et la doctrine de Balaam, c'est inciter le peuple à la débauche en l'enseignant à s'unir au monde. Voyez-vous, ça commence par une désobéissance. Le Seigneur dit non, je n'écoute pas. Je m'égare et dans mon égarement, je cherche l'appui ailleurs qu'en Dieu. Cette désobéissance devient une doctrine, un enseignement. Si le Seigneur dit non, n'essayez pas d'obtenir un oui, car il y aura des conséquences, il faut en être bien certain. Et regardez bien Balaam, comment il se fait réprimander. Son âne se détourne du chemin. Ensuite, il lui écrase le pied. L'âne dut le raisonner. Il se fait raisonner par un animal, c'est pas drôle. Hein? Ensuite, c'est l'ange qui le gronde. Mais il semble bien spirituel parce qu'il a adoré, au verset 31, il a confessé sa faute et il a même promis de changer d'attitude. Mais parce qu'il était déterminé à aller, Dieu l'a laissé aller. Et oui, il y a tout un processus. Le Seigneur nous parle, on continue dans la désobéissance. À un moment donné, ça devient, on le croit vraiment, on se pense dans la volonté de Dieu, puis on ne l'est pas. Dieu peut nous parler de différentes façons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'écoute pas. On est comme le peuple d'Israël, un peuple au cou raide, on est pareil. Ensuite, Balaam se fait réprimander par Balak. Et en voulant plaire à Dieu puis à Balak en même temps, il a réussi à déplaire aux deux. Un faux prophète cupide. Dieu ne changera pas d'idée, il a béni ce peuple, puis il ne peut pas le maudire. Dieu ne revient pas sur sa décision. Dieu a dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Ça, c'est sa volonté directive. Mais Balaam n'a pas écouté, il s'est engagé sous la volonté permissive de Dieu. Et en étudiant le chapitre 23, Balaam, ayant obtenu la permission d'aller où il désirait, il persiste dans sa désobéissance. Puis là, Balak l'amène sur une montagne, puis il fait voir le peuple d'Israël, puis il dit, regarde si c'est beau. Balak, il dit, tu n'as pas demandé de me dire qu'il était beau, je veux que tu le maudisses. Mais Dieu se saisit de Balaam, puis il dit, ce peuple est béni. Balak, il choque à chaque fois. Il y a quatre messages, quatre discours que Balaam va dire. Puis quand il vient là, prêt à maudire le peuple de Dieu, Dieu saisit de lui et il fait dire des paroles de bénédiction. Mais il a quand même désobéi. Alors, il y a des conséquences à la désobéissance. Et nous savons par d'autres versets que Balaam, un peu plus tard, a été mis à mort, selon l'ordre de l'Éternel. Voyez-vous, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël. » Chez les Madianites. Et nous savons que Il a été responsable d'avoir fait tomber les Israélites dans l'idolâtrie et l'immoralité. Alors, au verset 6, Nombre 31, verset 6, Moïse envoya à l'armée ses mille hommes par tribu. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre de l'Éternel que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Et conséquence de la désobéissance, ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Pourquoi il est mort, lui? Parce qu'il n'était pas à bonne place. Il n'était pas avec le peuple d'Israël. Il était avec les autres peuples, puis il cherchait à entraîner les Israélites là. Alors, quand Moïse, sous l'ordre de Dieu, avec l'armée, sont arrivés, Balaam était dans le groupe, il a été mis à mort avec les autres. Et il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. » C'est sa méthode, hein? La méthode de l'adversaire. Par sa ruse, il a réussi à entraîner les enfants d'Israël à l'infidélité avec Dieu. Et au lieu de bénir ce peuple, au lieu de maudire ce peuple, Dieu a continué à le bénir. Alors, si le Seigneur vous a déjà montré de ne pas aller à tel endroit, de ne pas lire tel ou tel livre, de ne pas visiter tel ou tel site Internet, de ne pas écouter tel ou tel film, puis mettez ce que vous voulez sur la liste. Si Dieu dit non, essayez pas d'avoir un oui. Sinon, vous allez entrer dans la volonté permissive. Quand Dieu dit non, il ne faut pas essayer d'avoir un oui. Il faut toujours être prêt à dire oui, Seigneur. Êtes-vous prêt à dire oui, Seigneur? Êtes-vous prêt à dire, « Oui, Seigneur, aujourd'hui, je serai content d'être là où je veux que tu veux que je sois. » On n'est pas toujours prêt à dire, « Oui, 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 Seigneur, je suis bien content d'être là où que tu m'as placé. Hein? » On n'est pas toujours prêt. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre aussi à dire, « Oui, Seigneur, je veux te faire confiance quant à l'incertitude à laquelle je fais face. » Oui, Seigneur, je veux accomplir ta volonté. N'essayez pas d'avoir un oui lorsque Dieu dit non. Le psaume 25 nous dit, l'Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. On va prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui nous indique très clairement que marcher dans ta volonté, c'est très avantageux pour nous. Te désobéir et s'embarquer sur la volonté permissive, il y a des conséquences, puis ça nous fait mal. Par ta grâce, Seigneur, travaille dans nos vies, puis amène-nous à marcher toujours dans ta voie, dans tes sentiers. C'est une grâce qu'on te demande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonne fin de journée.